Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Paris pourrait passer en alerte maximale lundi si la progression de l'épidémie se confirme d'ici là. Nous ferons le point sur les déclarations du ministre de la Santé hier soir.
Les juifs ultra-orthodoxes représentent 16% de la population en Israël et 40% des patients Covid. La communauté a parfois du mal à rester confinée.
Les populations civiles arméniennes continuent de subir les bombardements dans le Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Reportage à suivre de notre envoyé spécial.
Claude Hermant a été entendu hier pendant le procès des attentats de janvier 2015. Trafiquant d'armes, figure locale d'extrême droite, il est accusé d'avoir fourni du matériel à Hamedi Coulibaly.
Plus de 70 réalisateurs et producteurs réputés réclament un plan d'aide au Congrès américain. Dans une lettre, ils s'inquiètent des conséquences de la crise économique pour l'industrie du cinéma. Et après ce journal, place à la radiographie du coronavirus, Guillaume Herner.
Absolument, nous retrouverons Nicolas Martin qui nous donnera des nouvelles de la bête à picot.
Soignants, restaurateurs, gérants de salles de sport, entre autres, nombreux sont ceux qui attendaient la déclaration d'Olivier Véran hier soir sur l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé n'a pas annoncé de nouvelles mesures de restriction, mais a précisé certains points. Paris et sa petite couronne seront placés en état d'alerte maximale lundi avec fermeture totale des bars et des restaurants si la situation sanitaire se confirme ce week-end, Sophie Delpont.
Le ton d'Olivier Véran est solennel.
Dans les dernières 24 heures, Paris a franchi les 3 seuils qui peuvent correspondre à la zone dite d'alerte maximale.
Mais pas de précipitation, pas de mesure instantanée.
Ce franchissement des seuils, nous ne l'observons que depuis quelques heures. Nous avons besoin évidemment de le confirmer dans les tout prochains jours. Mais si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la petite couronne en zone d'alerte maximale, et ce, dès lundi.
Le ministre de la Santé annonce qu'il fera un nouveau point sur les chiffres dimanche avec la maire de Paris avant toute décision. Interrogé sur une potentielle différence de traitement entre Paris et Marseille, Olivier Véran dément tout favoritisme.
Marseille a été basculée en zone d'alerte maximale. Elle avait déjà franchi les 3 seuils, pas depuis 24 heures, mais depuis plus longtemps que cela. Donc il n'y a pas de traitement différencié entre Marseille et Paris.
Il précise qu'en cas de confirmation de la tendance observée à Paris, la capitale connaîtrait les mêmes mesures.
Le passage en zone d'alerte maximale supposera que les habitants de Paris et de la Petite Couronne réduisent temporairement leurs interactions sociales de manière drastique, en tout cas plus importante que ce qu'ils font d'ores et déjà. Plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars.
À propos des restaurants, en revanche, le gouvernement étudie les pistes proposées par les professionnels du secteur cette semaine pour tenter d'éviter la fermeture des établissements, même dans les zones d'alerte maximale.
5 métropoles très surveillées obtiennent aussi un sursis. Pas d'alerte maximale pour l'instant à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne, villes dans lesquelles l'évolution des derniers jours est préoccupante. Quant à Bordeaux, Nice et enfin Marseille où les bars et restaurants ont totalement fermé, le gouvernement note, je cite, un début d'embellie sur le plan sanitaire. Dans la même soirée, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à la prolongation des restrictions jusqu'à la fin du mois de mars prochain, comme les fermetures de restaurants et les restrictions de déplacement. Un projet de loi qui doit maintenant être examiné par le Sénat. Alors qu'en France, d'éventuelles restrictions sont à l'étude, en Israël, la population entre aujourd'hui dans sa 3e semaine de reconfinement et la 2e vague est plus meurtrière que la première. Le taux de contamination est, lui, le plus élevé au monde. 14% en moyenne, 28% chez les juifs ultra-orthodoxes. Cette communauté est particulièrement touchée. Elle ne représente que 16% de la population, mais 40% des patients atteints du coronavirus. À Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Dans le quartier ultra-orthodoxe de Mekor Barour, chaque foyer a construit sa cabane pour la fête de Soukhot qui débute aujourd'hui. C'est la tradition. Des hommes en noir avec chapeau, des femmes en longues robes avec foulard ou perruque et beaucoup de petits-enfants se promènent. Mordechai reconnaît que ces co-religionnaires ont beaucoup de mal à rester confinés chez eux.
Oui, et c'est très difficile pour eux. Toutes les communautaires, ils sont habitués à aller à la synagogue. Notre vie, c'est prier 3 fois par jour, ensemble, étudier, ensemble. ensemble.
À 60 km de là, Bnei Brak, 205 000 habitants, presque tous orthodoxes. C'est l'une des villes les plus contaminées et les plus denses du monde, raconte Jérémy Berébi, un juif très religieux, investisseur dans la high-tech, qui vit à Bnei Brak.
Il y a des familles avec 15, 20 enfants, certaines fois. Donc rien que au sein du foyer, il y a énormément de contamination. Et ces gens-là, bah, effectivement, de temps en temps, doivent se réunir pour des fêtes, un mariage, une bar mitzvah, une circoncision, des choses comme ça. On va pas dire que les gens n'écoutent pas intentionnellement. Il y a quelque chose d'affectif là-dedans. Donc, vous avez du mal à ne pas inviter le cousin, vous avez du mal à ne pas inviter le tonton ou la grand-mère. Et au final, il suffit qu'il y en ait un de malade et ils sont tous contaminés.
Le gouvernement a interdit les rassemblements pour Soukhot, mais des cabanes géantes pour 900 personnes avec sono ont déjà été installées. Et le Premier ministre Netanyahou ne peut pas se fâcher avec les religieux, ses alliés indispensables.
Et on vient de l'apprendre, Donald Trump a été testé positif au nouveau coronavirus. Le président des États-Unis avait annoncé quelques heures plus tôt s'être mis en quarantaine en attendant le résultat du test. L'une de ses proches collaboratrices qu'il avait suivi dans ses déplacements cette semaine est aussi positive. Emmanuel Macron veut des explications. Le président français doit appeler son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer les combats dans le Haut-Karabakh, province séparatiste en Azerbaïdjan peuplée très majoritairement d'Arméniens. La Turquie est la plus fidèle alliée de Bakou et selon Paris, 300 combattants ont quitté la Syrie pour rejoindre l'Azerbaïdjan en passant par la Turquie. D'autres contingents se préparent et c'est inacceptable, avertit l'Élysée. Les tirs se poursuivent depuis maintenant près d'une semaine. Hier, 4 civils ont été tués dans la ville arménienne de Martouni, 11 blessés, dont au moins 2 confrères du journal Le Monde. La vie quotidienne est dure, notamment dans les villages sur la ligne de front. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial, Claude Bruyot.
Le bruit n'est pas hésitant de gorille sur les éclats de sa vitrine brisée par les bombardements du matin ne couvre même plus les tirs de l'après-midi. La ligne de front est à quelques kilomètres de son village natal, Martouni, du côté arménien. À 63 ans, Gori est un habitué du conflit. Il fait l'état des lieux après 5 jours de bombardement azéri.
C'est la maison de la culture et le centre musical aussi.
Il ne veut pas partir.
C'est notre terre où je dois partir.
Nastia, elle, a fui Martouni le jour même avec une douzaine d'enfants du village pour une halte dans un hôtel de Stepanakert avant de rejoindre Yerevan.
Là-bas, ça a été très difficile. Nous avons survécu plus de 3 jours dans le village, mais là, ce n'est plus possible. Les enfants avaient très peur la nuit. Les bombardements étaient vraiment à côté.
Stéphane, 39 ans, dont 20 passés aux États-Unis, n'hésite pas à désigner la Turquie comme principale responsable des bombardements de civils.
On avait les drones turcs, mais on n'avait pas les avions et les pilotes turcs comme aujourd'hui.
Avant de prendre congé pour rejoindre son unité, Stéphane dit qu'il espère encore que la Russie et les Occidentaux parviendront à faire reculer la Turquie avant qu'il ne soit trop tard.
Claude Bruyot, envoyé spécial de France Culture.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. C'était hier au tour de Claude Hermand d'être entendu lors du procès des attentats de janvier 2015.
Le trafiquant d'armes lillois est accusé d'avoir fourni une partie du matériel utilisé par Hamedi Coulibaly. 8 de ses armes ont été retrouvées à l'hypercachère et dans l'appartement loué par le tueur à Gentilly dans le Val-de-Marne. Claude Hermand était entendu à titre de simple témoin et avec lui des gendarmes, des policiers ainsi que son ancien lieutenant, particulièrement taisant, Florence Turm.
Claude Hermand le surnommait Monstro. Même carrure massive que lui, même crâne rasé, chaîne en argent au cou, t-shirt rouge et biceps tatoués. Mais Christophe Dubroc est beaucoup moins bavard que l'ancien trafiquant d'armes lillois venu dénoncer à la barre les loupés des services. J'étais une sorte de rabatteur, admet-il à demi-mot. Des acheteurs qui ont pu fournir ensuite les armes à Hamedi Coulibaly, il ne connaît personne. Pas même Samir Ladjali, que Claude Hermand présente comme son client exclusif. Ladjali cité par la défense, l'un des chaînon manquant peut-être, mais qui ne s'est pas présenté à l'audience. Finalement, vous ne savez pas grand-chose, s'impatiente le président. En 2014, c'est pourtant lui qui a balancé le trafic d'armes de Claude Hermand à la police, affaire de jalousie et d'argent, histoire surtout de récupérer le marché, explique l'ancien commissaire des renseignements généraux. Lui a passé le relais à la police judiciaire et le capitaine en charge de l'enquête s'est alors inquiété des relations entre le trafiquant d'armes et un douanier lillois qui lui aurait présenté des amis parisiens. Et c'est sans doute un hasard, intervient un avocat de la défense, si Claude Hermant est interpellé le 20 janvier, quelques jours après les attentats. Les deux dossiers ont été disjoints, Hermant condamné à 8 ans de prison. Des gendarmes entendus en visioconférence derrière un rideau, anciens agents traitants de l'informateur Hermant, on n'apprendra rien de plus. Si l'on avait vraiment creusé, on aurait eu d'autres réponses, déplore encore la défense. Nous, on considère que l'on nous cache la vérité, que l'on déplace la responsabilité sur des boucs émissaires.
Florence Turm. Son discours sur les séparatismes est très attendu. Emmanuel Macron doit présenter aujourd'hui sa stratégie, les séparatismes, dont l'islam radical. Le président de la République a choisi les Mureaux dans les Yvelines pour s'exprimer. Il souhaite notamment un contrôle plus strict des écoles privées hors contrat et de l'instruction à domicile. Guillaume Erner y reviendra avec son invité à partir de 7h40. Pour sauver l'industrie du cinéma américain, de célèbres producteurs et réalisateurs ont envoyé un courrier aux membres du Congrès. Martin Scorsese et Clint Eastwood en font partie. Ils réclament un soutien financier immédiat, inquiets à l'idée de voir des cinémas fermés. Benjamin Hilly.
Peut-être êtes-vous impatient de découvrir le nouveau Top Gun avec Tom Cruise ?
Natalie.
Ou l'adaptation de West Side Story par Steven Spielberg ?
Skyscrapers blooming up.
Eh bien, il faudra attendre sortie reportée à l'été ou l'hiver 2021, comme pour toute une série de films à gros budget qui auraient pu remplir les salles dès cet automne dans les villes où les cinémas ont rouvert, car ce n'est toujours pas le cas à New York et Los Angeles, les deux plus gros marchés du pays. Hollywood et l'industrie du film en général sont en crise, Covid oblige, et c'est un appel au secours qui est lancé avec cette lettre adressée au chef de file du Sénat et de la Chambre des représentants aux États-Unis. Une lettre signée par plus de 70 réalisateurs et producteurs de renom, Martin Scorsese, Clint Eastwood, James Cameron, Sofia Coppola ou encore Christopher Nolan, et tous font le même constat. La situation est désespérée. Les salles obscures pourraient ne pas survivre à l'impact de la pandémie sans une aide au niveau fédéral. Chiffre à l'appui, 93% des grands réseaux de salles de cinéma ont subi 75% de pertes au deuxième trimestre. Sans appui financier, 69% des petites et moyennes salles seront contraintes de déposer le bilan.
Benjamin Hilly à New York. Les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge. Pluie, inondation, 13 autres départements français sont en vigilance orange, du Finistère aux Côtes d'Armor, de la Côte d'Or au Var. C'est dû au passage de la tempête Alex. Attention aux vents violents et aux fortes pluies. Il va pleuvoir sur presque toute la France. Vous n'aurez pas plus de 14 degrés à Lille et Bordeaux, 18 à Strasbourg et 21 à Marseille, Guillaume.
Merci quand même, Margot Delpierre.